Média.
Média. Podcast.
Média.
L'intelligence artificielle transforme le monde à une vitesse fulgurante et l'Afrique n'est pas en reste. Du sous-titrage automatique au doublage en langue locale, en passant par la personnalisation des contenus, l'IA redéfinit les contours du secteur audiovisuel. Sur un continent jeune, créatif et ultra connecté, ces technologies ouvrent des perspectives inédites pour produire, diffuser et consommer autrement. Alors, comment l'Afrique s'empare-t-elle de cette révolution silencieuse ? Pour en parler, nous sommes avec notre guide du jour et spécialiste dans le domaine, Elhaj Maliksek, M-A-S-S. Il est directeur artistique, producteur et graphiste. Bonjour M-A-S-S et merci de nous servir de guide aujourd'hui.
Bonjour et merci aussi de me recevoir sur votre plateau pour parler IA en Afrique, dans le monde et principalement dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma.
Et justement, dans cette dynamique pour entrer plutôt plein pied dans l'IA, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle la production de contenu audiovisuel comme les films, les séries, les documentaires et autres à l'échelle mondiale ?
Donc, l'année 2024 a vu l'apparition de ce qu'on appelle l'IA générative, qui a permis, après le texte, de générer des images, mais aussi après, 6 mois, avec Sora de OpenAI, de générer des vidéos. Et ça a été vraiment une onde de choc dans le domaine de tout ce qui est production audiovisuelle. Et il faut savoir que la production audiovisuelle et cinématographique, ce qui caractérise donc ce processus, ce sont les coûts. Normalement, le matériel, mais les personnels et la post-production. Donc avec l'IA, vous savez que cela impacte sur ce coût-là, et ce qui fait que, et même l'accessibilité, donc ce qui fait qu'il y a une profilération du moins de contenu et qui provient de l'IA. Maintenant, effectivement, cela impacte le documentaire, les films, plus les publicités, parce que il faut aussi savoir que dans la génération d'images, vidéo, ce sont des clips de 1 minute maximum qu'on peut générer. Et au-delà de ça, il est difficile de maintenir une cohérence entre les différents clips. Cohérence ou consistance, cela symbolise en fait les personnages, ils vont se différencier, ils vont aussi avoir des différences dans leur apparence, ce qui fait que c'est très difficile pour un long métrage, bien un documentaire long, d'avoir recours donc à cette forme de technologie. Mais quand même, pour la publicité, nous avons par exemple Toy R US, USA, donc qui a fait la première publicité et qui s'est prêtée mieux vraiment pour son format. Maintenant, il y a de plus en plus donc les publicités, les agences publicitaires donc ont recours à cette technologie-là. Maintenant, pour le documentaire, bon, c'est facile parce que le documentaire, on utilise des images dessinées ou bien des images 3D pour en fait immortaliser ou bien pour en fait illustrer certaines images qu'on ne pouvait pas en fait avoir. Mm-hmm. Parce que par exemple, si ce sont des documentaires par exemple historiques, on peut avoir recours à ça. Maintenant le film c'est plus difficile, mais comme on dit, hein, d'ici 2030, 90% donc des films pourront être générés exclusivement par l'IA. Donc ça veut dire que l'impact effectivement est réel et avec la technologie, bon, c'est de façon exponentielle. Mm-hmm. On voit l'impact là, mais depuis l'industrie, la naissance de l'industrie audiovisuelle du cinéma, donc il n'y a pas eu d'impact aussi important que ce que l'IA a généré en termes d'ondes de choc.
Et par rapport à ça déjà, quelles sont aujourd'hui les principales technologies d'IA utilisées dans le secteur audiovisuel, notamment en Afrique?
Je parlais tout à l'heure de Sora, donc qui est une intelligence artificielle donc qui fait de la génération vidéo, qui a été produit par OpenIA donc avec ChatGPT que tout le monde connaît, mais il y a aussi Vio Google récemment donc qui a sorti vraiment, je dirais, une claque parce que dans nos plateformes et nos fils au niveau du Sénégal, on voit vous le savez très bien, des Serrer ou bien des Diola ou des Tougleurs qui se font un peu des plaisanteries à cousinage avec vraiment des images qui frisent avec la réalité et qui sont générées par Vio Google. Mais il y a aussi Vidu, donc V-I-D-U de Seng Su, qui est une IA chinoise. Dream Machine aussi, qui est une IA chinoise. chinoise. Il y a aussi Wall-E. Wall-E, bon, nommé d'après le robot d'un film de dessin animé. Mm-hmm. Et les IA, en fait, il y en a vraiment beaucoup, pratiquement. Mais les plus performants, en fait, c'est des IA qui viennent des États-Unis et des IA qui viennent de la Chine. Mm-hmm. Qui, avec son entrée, a fait vraiment aussi, bon, un peu déranger la hiérarchie, quoi.
Et aujourd'hui, par rapport à l'utilisation de ces IA, qu'en est-il aujourd'hui de son impact sur aujourd'hui l'audiovisuel africain, notamment aussi que ce soit dans des pays qui viennent de, plutôt de s'immiscer dans ce domaine? On savait qu'au préalable, il y avait le Nigeria qui est toujours parmi aujourd'hui les pays africains qui sont plus au-devant par rapport à ça, d'autres pays comme le Kenya et tout, mais plus dans le côté des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal. Comment aujourd'hui l'IA est perçue? Est-ce que son intégration également dans le secteur de l'audiovisuel est si avancée que ça?
Bon, parce qu'avant de parler en Afrique, je voulais d'abord aussi faire une incursion sur l'impact de l'IA.
Allez-y.
Au niveau des métiers. Mm-hmm. Effectivement, on sait que la plupart des craintes de l'IA, c'est que cela va amener à amoindrir ou bien supprimer des métiers. Mmh. Effectivement, dans le domaine de l'audiovisuel, nous avons vu, par exemple, The Last Street Screenwriter. C'est un film de long métrage qui a été annulé, sa projection au niveau de Londres, parce que il y avait des problèmes de droit. En fait, c'était un film qui a été entièrement scénarisé par une IA. Mmh. Et en 2023, il y a aussi des grèves des scénaristes Hollywood, qui en fait protestaient contre l'utilisation donc de génération de scénarios à travers l'IA. Parce qu'effectivement, il y a eu un film qui a été utilisé qui a utilisé du moins une IA qui s'appelle Stable Diffusion, japonais, et le film s'appelle Death is Beautiful. Et il y a eu, effectivement, on l'a attaqué par rapport aux droits d'auteur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne crée pas ex nihilo. Mm-hmm. Donc, il va faire, en fait, une certaine, comment dirais-je, il va sélectionner un mix de styles. Par exemple, on a vu avec les générations de dessins du studio Ghibli, avec Miyazaki, qui est décédé récemment. Mais certains Japonais se sont offusqués de comment est-ce qu'ils luttent, lui, sans pourtant payer les droits. Donc, effectivement, l'industrie du cinéma, lui, utilise, en fait, par exemple, pour la post-production, par exemple, pour certains rôles, comme les rôles de figurants, qui n'ont pas toujours besoin d'être au premier plan. Si on a, par exemple, des scènes de bataille, de guerre, où il y a des milliers de personnes, on peut utiliser au niveau de la post-production pour quand même réduire les coûts. Donc, et là, bon, je parlerai de l'IA en Afrique. Mmh. Pour revenir à votre question.
Tout à fait.
Effectivement, donc dans les industries comme Hollywood, au Sénégal, bon, au Maroc et autres, nous n'avons pas encore quand même d'IA à proprement parler produit à notre niveau. Mmh. Si cela, par exemple, dépasse le cadre de l'IA pour la génération de textes ou bien pour la génération de voix, il est difficile pour le moment, par exemple, d'avoir, parce qu'on n'a pas les plateformes, parce que ce qui est très difficile pour les IA, sa conception, ce sont en fait la capacité de mémoire que cela demande. Et au niveau donc des États-Unis et de la Chine, même la Chine a réussi à faire donc des IA qui concurrencent ChatGPT, mais en amoindrissant vraiment les coûts. Donc, aujourd'hui, plus sur les clips audiovisuels, par exemple des clips de Imra, des clips, par exemple le dernier clip de Deep Dounougis, mm-hmm. sur les tirailleurs africains qui a été primé au premier festival de IA et cinéma, donc ont été utilisés. Donc pour l'utilisation de clips et de publicité, l'IA s'y prête. Mais maintenant pour les films, à proprement parler, dans notre industrie, je pense pas que, pour le moment, l'utilisation n'est pas encore visible dans nos productions audiovisuelles, par exemple de cinéma, à part la publicité et les vidéoclips. Pour le moment. je n'en vois pas. Maintenant, peut-être dans un avenir proche, parce que effectivement, en tant qu'Africain, cette plateforme-là pourra nous permettre nous de résorber un gap qui a été rendu possible peut-être par la difficulté à avoir accès à ces matériels-là.
Et aujourd'hui, dynamique également sur dynamique. Aujourd'hui, l'IA représente, comme vous l'avez dit, une menace pour certains métiers traditionnels, entre autres, mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, quel est le niveau d'adoption des technologies d'IA dans les industries audiovisuelles africaines, notamment dans des hubs comme le Nigeria, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique du Sud ou le Kenya?
Plus dans les dessins animés, parce que vous savez que en termes d'industrie cinématographique, donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, peut-être le Kenya, à d'autres niveaux un peu plus bas, sont les locomotives au niveau de la production audiovisuelle ici en Afrique. Maintenant, le Nigeria, il y a du bon comme il y a du moins bon, parce que vous le savez, les films de Nollywood, tu peux en trouver des films vraiment de piètre qualité. Mais avec maintenant les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, donc qui sont friands de toutes les productions nigériennes, parce qu'il y a une large communauté de Nigériens, surtout avec l'arrivée du Naija Beat et de la musique nigérienne qui a prêté aujourd'hui donc, les charts au niveau mondial. Il y a une demande de la culture qui va avec Nollywood, donc ils ont un gros part. Maintenant, il y a ces plateformes-là qui viennent, que ce soit Disney+, que ce soit surtout Amazon Plus et Netflix, qui injectent beaucoup d'argent. Il y a eu une production de dessins animés faite en Afrique du Sud qui s'appelle Les Quatre Fantastiques. Donc, c'est quatre femmes qui ont été scénarisées par des femmes, où la technologie, effectivement, sur la deuxième saison qui est annoncée, on va utiliser de l'IA par rapport à certaines scènes, n'est-ce pas? Donc, ici, au niveau africain, pour le moment, dans les productions, par exemple, de première qualité, divisées, nous ne sommes pas encore au niveau mondial, comme des films que je viens de citer, par rapport à The Last, comment dirais-je, Screenwriter, et aussi comme un film qui s'appelle The Creator, qui a été produit avec 80 millions de dollars. Et pourtant, dans les coûts normaux, et Steven, comment dirais-je, Jeffrey Katzenberg l'a dit. Katzenberg, donc, c'est un des propriétaires de DreamWorks. DreamWorks, donc, c'est un studio qui appartient à Katzenberg et à Spielberg. Normalement, The Creator devait coûter quelque chose genre 200 millions de dollars, alors qu'avec 80 millions de dollars, ils ont réussi à le faire. Mais cela, c'est dû en fait à l'apport de la technologie qui a pu permettre, mais avec seulement donc des lignes de prompt, de faire le travail de chaîne de spécialistes de la 3D, de spécialistes de truquistes et de spécialistes d'effets spéciaux et aussi d'acteurs. Donc cet impact-là, l'industrie, moi j'en suis convaincu, l'industrie cinématographique en Afrique va en profiter parce que comme l'ordinateur est venu et a permis donc à l'Afrique d'avoir accès à certains marchés, les IA vont nous permettre de raconter des histoires qu'on ne pouvait pas raconter sans ces technologies-là, n'est-ce pas? Mais pour le moment, comme je le dis, à part les petits clips et les pubs et les clips qu'on fait, par exemple, sur Twitter et autres, bon, il n'y a pas encore une utilisation vraiment visible, étendue sur le marché africain.
Et par rapport déjà, comme on le dit, à ce point, comment l'IA pourrait-elle aujourd'hui contribuer à démocratiser la production de contenu en Afrique? Et en réduisant également les coûts et en améliorant la qualité.
Oui, vous avez dit deux mots clés, que ce soit la qualité et les coûts. On sait que, comme je l'avais dit aussi un peu plus haut, que la production audiovisuelle et cinématographique, les coûts sont des coûts qui sont vraiment très élevés, dû au fait avec le matériel utilisé, au nombre de personnes et les personnes qui vont travailler en post-production. Mais comme l'ordinateur, quand nous avons eu donc les ordinateurs portables, surtout l'informatique qui est venue avec IBM, a permis de démocratiser l'accès donc à l'informatique, parce qu'avant, c'était des blocs, des immeubles, c'était seulement réservé à certaines personnes. Mais avec donc l'ordinateur personnel, on a vu comment est-ce que l'Internet, comment est-ce que donc des plateformes comme les plateformes de traitement de texte comme Windows et autres ont été démocratisées. C'est la même chose avec l'IA. Donc, nous, Africains, nous avons quand même toujours eu un problème par rapport au coût, parce que dans nos industries, malheureusement, il n'y a pas de système de financement très lourd. Pour faire un film en Afrique, il est très, très difficile d'avoir 1 milliard, voire 2 milliards. Maintenant, si ce coût-là, en termes de qualité, d'avoir des images qui puissent concurrencer Game of Thrones, comment dire, Spider-Man, ou bien Le Seigneur des Anneaux, avec leur qualité, si on a accès à des logiciels qui nous permettent de le faire, vous imaginez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez l'industrie nigériane avec Nollywood, il y a des films d'époque, et ces films d'époque, en les regardant, le bémol vient toujours, par exemple, des foules, des décors, des effets spéciaux. Et cela, ce qui le freine, c'est que ça a un coût, par exemple, pour casser des voitures, faire exploser des immeubles, et avec l'IA, on pourra le faire. Donc, ce qui va permettre effectivement aux Africains qui sont créatifs de pouvoir vraiment avoir accès à un niveau, par exemple, de diffusion, que ce soit dans les plateformes et dans les cinémas, qui pourront concurrencer les blockbusters. Pour moi, ça, c'est un. Deuxièmement, il faudra que les gouvernants aident et investir, pour moi, dans la formation et aussi dans les centres de calcul qui pourront faire que nous pourrons avoir accès à ces plateformes-là, mais nous pourrons aussi produire du contenu qui vont alimenter nos propres réalités, qui vont nous permettre de créer nos propres imaginaires, n'est-ce pas? Et développer, développer des logiciels et développer des IA qui pourront aussi spécifiquement prendre en compte les spécificités culturelles et traditionnelles de nos continents africains. Donc, pour moi, l'IA pourrait aider à faire quand même donc cet impact-là dans notre industrie.
Et justement, pour parler de l'IA et aujourd'hui de son impact sur l'Afrique, nous allons écouter cet élément avant de revenir avec notre invité, Elhaj Malik Seck, dit MASSS.
L'intelligence artificielle bouleverse la production audiovisuelle mondiale. De Hollywood à Nollywood, les IA transforment les métiers en gains de temps, mais aussi en crainte. Scénaristes, monteurs, ingénieurs du son, tous doivent réinventer leur rôle. L'IA peut aider l'Afrique à raconter ses propres histoires en langue locale, avec des effets spéciaux dignes des plus grands. Pourtant, les promesses sont là. Produire localement, à moindre coût, avec une qualité professionnelle. Des incubateurs, des start-up et quelques politiques publiques ouvrent la voie, mais l'écosystème reste fragile. L'IA pourrait démocratiser l'accès à la création, mais elle pose aussi la question de la souveraineté culturelle. Qui contrôle les récits, les images, les voix ? Gare alors à la dépendance technologique et à la dilution culturelle. Pour réussir, il faudra un cadre éthique, des alliances entre États, chercheurs et créateurs et une volonté politique forte. L'Afrique peut devenir une puissance audiovisuelle augmentée à condition de prendre la main sur ses propres technologies et ses propres histoires. Et si l'industrie audiovisuelle africaine devenait, grâce à l'IA, l'une des plus créatives et compétitives au monde, c'est possible. À condition de ne pas rater le train.
De retour avec notre invité. Alors, MASS, quels sont les risques en matière d'identité culturelle ou de perte de contrôle créatif que l'IA pourrait faire peser sur la production audiovisuelle africaine ? Parce que quand même, quand on parle de IA, c'est quand même une, entre guillemets, une machine ou une technologie qui travaille à la place de l'humain.
Pour moi, ce n'est pas, c'est juste une crainte, mais l'IA ne pourra jamais remplacer le cerveau humain. Si non hormis qu'on parle de d'IA générative, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'IA générale, qui va tout faire comme les hommes, cette IA-là, c'est le graal de l'IA. Donc les développeurs, les scientifiques courent vers cela, mais pour moi, ça va être un graal ou bien ça va être, comment dirais-je, la théorie du tout que les scientifiques essaient de trouver. Maintenant, comment est-ce que l'Africain ou les Africains pourront faire et spécifiquement peut-être certains pays, pour ne pas que leur identité culturelle et leur identité en tant que élément géographique ne s'estompe, essayer d'être présent en termes de contenu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est prédominant en termes d'images, ce sont les images nigériennes et les images de l'Afrique du Sud. Et je le dis toujours et souvent, si aujourd'hui vous regardez dans les rues de Dakar, des fois vous voyez de la publicité qui est utilisée dans les panneaux publicitaires. Mmh. Et en général, le code vestimentaire, c'est toujours les codes vestimentaires des Nigériens. Par exemple, la façon dont les femmes se coiffent avec leur coiffure de cérémonie. Les gens n'y prêtent pas attention, mais par exemple, pour avoir spécifiquement une coiffure d'une Sénégalaise, mais il faudra que l'IA puisse avoir dans sa base de données un certain nombre d'images de ces femmes sénégalaises pour pouvoir construire ou générer des images qui vont refléter en fait ces réalités culturelles. Et cela renvoie toujours à l'alimentation, cela renvoie toujours à ce qu'on va donner donc en termes de ce qu'on va mettre dans la place publique pour entraîner ces IA-là. Parce que, comme on le sait, l'IA, par exemple, pour reconnaître un chat, a besoin de voir 100 000 chats. Maintenant, s'il ne voit que 100 000 chats qui sont des chats de race chinoise, mais à chaque fois qu'un Sénégalais va le demander donc, une maison avec un chat, et autres, donc on ne verra pas les chats spécifiques de gouttière que nous voyons, n'est-ce pas? Donc ces réalités-là, bon, de plus en plus maintenant, les IA essayent d'intégrer cela. Mais en tant que graphiste, jusqu'à présent, on peut avoir un contrôle sur le processus créatif parce que nous pouvons faire un prompt et puis affiner. Mmh. Par rapport aux images qui sont générées. Par exemple, sur un des clips vidéo qui a été, je pense, The Hardest Ways, c'est le premier clip vidéo qui a été produit par IA. Et ils ont choisi quelque chose comme 77 clips, mais le nombre total de clips, c'était plus de 700 clips qu'ils ont générés. Mais pour garder la cohérence, ils ont choisi juste 77 clips donc, pour faire partie du clip. Quand je dis clip, bon, ce sont les vidéo de courte durée que va générer donc l'IA, parce que l'IA ne va pas générer donc ou par exemple 7 minutes, n'est-ce pas? Donc sur ça, en fait, d'abord il faut savoir une chose, que l'IA c'est un outil, celui qui va aider en fait à accélérer le temps de travail, mais qui va aider aussi à avoir une palette. Maintenant cette palette là, comment on va la composer pour refléter l'identité de l'artiste? Et l'identité de l'artiste, donc, caractérisé par son origine, mais ça va toujours rester. On verra que sans pour autant avoir les compétences, sans pour autant avoir un background qui lui permet donc de modifier cela, si on le présente comme un film sénégalais, en fait, on pourra trouver des éléments qui feront que, bon, ça ne vient pas, qui vont dire que ça ne vient pas exclusivement de l'Afrique. Et on le voit souvent dans les clips, vous voyez des gens se présenter des vidéoclips et vous sentez qu'effectivement, sur certaines parties, c'est tel bâtiment, tel élément de décor, on ne le voit pas en Afrique. Et cela, c'est un biais qui fait perdre la valeur.
Un monde où on doit savoir qui est qui et qui fait quoi, c'est là l'objectif et l'orientation que l'Afrique et le monde cherchent à travers l'utilisation de l'IA de manière mesurée, de manière également stratégique. Merci encore à vous, M. Elhaj Malik Seck, d'IMASS. Je rappelle donc que vous êtes graphiste, producteur, mais également directeur artistique, un expert très connu et très respecté au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir servi de guide aujourd'hui.
Merci, chers frères, et bonne journée.
Merci également à vous, chers amis, pour ce voyage vers le monde de l'IA. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro, toujours dans votre émission Destination Afrique.